Europe 1,
16h-18h, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipe est sauvage et même à travers le poste, vous pouvez certainement la sentir, cette odeur de soufre. Car même confinés, chaque après-midi, les meilleurs journalistes d'Europe 1 continuent de se défier au service de votre culture G. Un seul sera élu chroniqueur du jour, celui ou celle qui vous aura livré la meilleure chronique. Vous votez via Twitter, mais là où ça se complique pour nos journalistes, c'est qu'ils doivent aussi tenter de décrocher à la fois mon vote et celui de l'invité. Alors il y a deux écoles, on l'a constaté hier.
Je suis un grand fan de Michel Jonas.
Moi je tiens à dire que je suis un grand fan de vous, Mathieu Noël.
Ah oui.
L'invité ou moi, il faut miser sur le bon cheval. Nous verrons quelle stratégie adoptent nos journalistes aujourd'hui. Mais d'abord, je salue ma fidèle complice, ma Calamity Jane, qui se remet doucement de ses émotions d'hier, puisqu'elle n'en revenait pas qu'on reçoive Michel Jonas.
Il est toujours vivant, dis donc.
Non.
Ah oui, Eva, bien sûr, il est en pleine forme, Michel.
Mathieu.
Bonjour, Eva Roque.
Bonjour, Mathieu. Bonjour à tous. Enfin, je ne sais pas si je dois vous dire bonjour. Vous êtes horrible de me faire dire des trucs pareils, là.
Je suis horrible tout court.
Ouais.
Outre ponctuer l'émission de vos délicieuses gaffes, votre rôle est de nous guider, nous et nos enfants, désormais, dans la jungle des programmes télé. Vous en avez encore trouvé pour tous les goûts aujourd'hui?
Ah oui, et notamment une petite mine d'or pour les enfants et beaucoup beaucoup de rire pour les grands. Voilà, c'est le programme du jour.
Hâte de connaître ce programme dans le détail, mais d'abord Eva, c'est notre kiff du confinement. Chaque après-midi, à défaut de pouvoir les accueillir en studio, on passe un petit coup de fil aux personnalités qu'on aime. Aujourd'hui, un comédien féru d'histoire qui nous régale à chaque fois. Il nous avait rendu visite en mars dernier et alors qu'à l'issue de l'émission, je le remerciais d'avoir tout donné pour le show, il avait eu cette réflexion qu'Eva n'oubliera jamais.
Et encore, tu m'as pas vu tout nu. Je vais te montrer.
Bonjour Laurent Deutsch.
Bonjour.
C'était le bon temps, on pouvait encore se montrer des choses en studio à moins d'un mètre de distance. Comment se passe le confinement, Laurent? On vous connaît un peu, on connaît votre énergie, on sait aussi votre goût pour la balade, la flânerie. Là, ça doit être terrible pour vous ce confinement.
Je pense que ça l'est pour tous, quoi. On attend. Moi, j'ai la chance d'avoir déménagé l'année dernière. J'habite dans les bois, donc je suis à l'air libre, mais j'ai quand même la sensation de vivre un exil intérieur. Je suis confiné en famille, voilà. Je les connais par cœur. J'ai baptisé tous mes chênes, tous mes arbres. J'ai une énorme famille, quoi. Mais il est temps que je me déconfine parce que je les ai tous adoptés. Ça me coûte un pognon fou.
Alors ce soir, on va un peu se déconfiner sur France 2 grâce à vous, par la pensée en tout cas, puisque vous présentez avec Stéphane Bern une émission sur le Paris du baron Haussmann, les travaux d'Haussmann à l'époque. Donc ça va nous déconfiner. C'est à 21h sur France 2, si je ne m'abuse.
Exactement. C'est des idées qu'on vous donne pour vous tous, comme moi-même, vous avez des fourmis dans les pattes. Et bien, ouais. Dès qu'on va pouvoir sortir, il va y avoir des choses à voir. Et c'est ce qu'on vous propose en avant-propos et en avant-première ce soir avec Stéphane.
Si je peux me permettre, regardez l'émission avec les enfants parce que c'est hyper pédagogique, hyper didactique. Et les images, elles sont incroyables en 3D. C'est formidable.
Et y a
vraiment, vous allez vous régaler. Ah oui, c'est bourré d'anecdotes. Ouais, exactement.
On va en parler, évidemment. Juste le temps de vous présenter, Laurent, nos deux premiers concurrents pour le titre de chroniqueur du jour. Avec nous, en duplex depuis la bergerie, ici les Bonnes Moules, la première communauté décroissante d'ici les Moulineaux. Nous retrouvons, pieds nus et dans un nuage d'encens, la spécialiste environnement d'Europe 1, Anne Le Gall, qui, après 45 jours de confinement, commence enfin à comprendre comment se placer par rapport à son micro pour qu'on puisse l'entendre autrement que si elle était à quatre. Car si elle est à Katmandou dans sa tête, je rappelle qu'elle n'est qu'à ici les Moulineaux, en vrai.
Je suis faible, attends, je monte le... Attends, mais c'est normal, voilà, là c'est mieux. Si je me rapproche de mon micro, c'est mieux si je le prends.
Et oui, c'est ça le secret des micros, plus on les tient près de la bouche, mieux ça marche. Petit conseil de pro, bonjour Anne Le Gall.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors Anne, maintenant que tous les gouvernements sont à peu près d'accord pour dire qu'il faut qu'on porte des masques, partout dans le monde, des chercheurs s'interrogent, et si au lieu de jeter les masques, on les recyclait?
Voilà, un beau sujet recyclage. Alors je vous avais déjà parlé du recyclage des boîtes d'œufs et de rouleaux de sopalin pour occuper les enfants, mais là attention, c'est beaucoup beaucoup plus sérieux, on grimpe de plusieurs marches, voire même de plusieurs étages au niveau des enjeux sociaux et sanitaires. On va parler effectivement du recyclage des masques médicaux. Il y a plusieurs équipes qui y travaillent dans le monde.
Face à vous, Anne, par l'entremise de cet outil de haute technologie qu'on appelle le téléphone, votre adversaire du jour n'est autre que Jean-Luc Boujon, le correspondant d'Europe 1 à Lyon. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors aujourd'hui Jean-Luc, vous nous parlez, je cite, de sketchs qui cartonnent sur Internet et qui parodient les émissions des années 80 et 90 comme apostrophe ou tournée manège. C'est donc une info Europe 1. Jean-Luc Boujon vient de découvrir les inconnus.
Ingrid, est-ce que tu baises?
Bravo Jean-Luc. Non, c'est pas les inconnus en fait, c'est autre chose. Hein. Ouais, mais ça s'en inspire, hein, c'est vraiment ça. Ça s'inspire aussi des blagues qu'on reçoit en ce moment tout le temps sur les groupes WhatsApp. Si vous aimez ça, ces grosses blagues, ces vidéos qu'on voit, c'est assez inégal. Mais si vous aimez ça, ben vous allez adorer Confinage TV. C'est une chaîne de télé avec ce type de grosses blagues, mais des parodies télé toute la journée, faites par des comédiens lyonnais. Confinage TV, on va découvrir ça. Le programme est donné, l'équipe est sauvage, peut démarrer.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
Ça fait un mois et demi maintenant qu'on est confiné, mais plus de deux mois que Laurent Deutsch ne dort plus. Deux mois qu'il est resté bloqué sur l'énigme qui nous agitait lors de notre dernière émission ensemble.
Ah, c'est vrai,
ah, c'est vrai.
Tous les mots français qui finissent par E-T-T-E sont féminins. Vrai ou faux?
Faux.
Branlette, quéquette, ah bah non.
De qualité, un questionnement de haut niveau. Laurent Deutsch, on est heureux de vous avoir avec nous cet après-midi. On vous avait reçu en studio en mars dernier pour votre livre et votre spectacle romanesque dans lequel vous reveniez notamment sur la fabuleuse histoire de la langue française. Vous deviez être sur scène d'ailleurs jusqu'à fin juin. Vous savez déjà si vous allez reprendre plus tard?
Non,
vous savez,
on sait pas.
Si c'est annulé, reporté?
Non, on sait pas. Ouais. On est dans le flou, dans un flou total, comme beaucoup de monde pour tout. Et nous aussi, on sait pas si ça repart, on sait pas quand ça repart. C'est vrai que moi, je jouais dans une salle de 500 personnes, donc ça fait un rassemblement sans doute un peu trop risqué, donc à mon avis c'est pas pour tout de suite.
Laurent, sur les chaînes info en ce moment, partout d'ailleurs, on a des spécialistes et tout le monde qui commente, beaucoup de gens qui essaient de se souvenir un événement aussi marquant dans leur histoire, dans l'histoire de notre pays, que ce qu'on est en train de vivre. Est-ce que vous, en tant que passionné d'histoire, vous avez un peu plus de recul? Est-ce que c'est vraiment quelque chose? On a entendu des comparaisons avec la peste et même le choléra. Est-ce que on peut parler d'un événement de cette ampleur historique ou il faut relativiser?
Non, je sais pas. Puis en plus, moi, je vais vous dire un truc tout simple, c'est que j'aime l'histoire quand elle est divertissante, quand elle est amusante, quand on peut tous en profiter. Et là, comme tout le monde, ça m'amuse pas du tout. Donc, j'ai même pas envie de comparer avec des événements historiques qui me fascinent quand je les lis à travers Dumas, Balzac, Victor Hugo. C'est sûr que la peste de Marseille de 1720, eh bien, elle est fascinante quand elle est loin de nous. Et là, voilà, j'ai pas envie de, j'ai même pas le désir et le goût de faire des rapprochements avec l'histoire parce que cette matière historique, moi, me permet de m'évader. Alors que ce coronavirus m'emprisonne, quoi. Donc c'est totalement antinomique avec la manière dont moi j'aborde l'histoire, de manière heureuse, joyeuse, gaie, divertissante. Là c'est chiant, quoi. Il y en a marre.
Effectivement, vous c'est l'histoire ludique.
On en a quand même marre de regarder des séries et de faire des gâteaux, quoi. Ça suffit. J'ai pris 10 kilos, moi.
C'est vrai qu'on n'en peut plus.
Attends, j'ai pas vu la gueule d'un terrain de foot.
Bouffées,
ce qui m'inquiète, c'est que je ne saurais même pas reconnaître un terrain de foot, quoi. J'en peux plus.
Il est temps que Laurent Deutsch retrouve la liberté. Je propose une autorisation préfectorale
j'en
qui permette à Laurent de se dégourdir les jambes. En attendant, on le retrouve ce soir sur France 2 dans Laissez-vous guider. Laurent Deutsch reste avec nous un petit moment.
Europe 1.
Et depuis le début du confinement, les règles ont changé dans l'équipée sauvage. Nos correspondants en région sont désormais en compétition. Pour le meilleur et souvent, hélas, pour le pire. On se souvient du dernier sujet de Lionel Gougelot, notre correspondant dans le Nord, sur la confinouse, la binouse du confinement.
Justement, c'est là que vous me dites à consommer avec... Mais non, avec une bande de potes, avec une bande de potes.
Alors que nous sommes déjà nettement dans le viseur du CSA, c'est fébrile que nous allons prendre cet après-midi la direction de Lyon pour y découvrir un collectif qui fait le buzz avec ses parodies sur Internet. Ce sera juste après Naughty Boy et Sam Smith. La la la, sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, la compétition désormais internationale, opposant chaque après-midi les meilleurs journalistes d'Europe 1, car oui, depuis le début du confinement, nos correspondants en région et à l'étranger tentent eux aussi d'être élus chroniqueurs du jour. Avant de donner la parole à Jean-Luc Bougeon, notre correspondant à Lyon, je rappelle le top 3 des thèmes les plus cons à ce jour. La douchette à popotin portative d'Hélène Cole,
oui, mais c'était bien.
La webcam à cigogne d'Arthur Henbaché et la confinouse de Lionel Gougelot qui l'avait tellement testé qu'il s'était carrément assoupi au moment de sa chronique. Je sens que notre premier concurrent du jour, Lionel Gougelot, va prolonger un petit peu votre rêve, Eva.
Lionel, est-ce que vous êtes avec
nous? Oui,
Lionel, il est déjà bourré à la confinouse. Déjà bourré avant même d'avoir commencé sa chronique. Vous l'avez compris, Jean-Luc, la barre est haute, mais je crois que votre sujet du jour est gratiné aussi. Ça s'appelle Confinage TV, une chaîne de télé avec des grosses blagues et des parodies télé toute la journée, faites par des comédiens lyonnais, bien sûr.
Ouais, alors c'est pas Confinous TV, hein, c'est Confinous TV, faut pas prendre à Lionel ce qu'est à Lionel. Ouais, mais je trouve que le nom claque bien. L'idée, ouais, c'est effectivement celle de comédiens du théâtre lyonnais, du Lavoir Public. C'est un petit théâtre qui est sur les pentes de la Croix-Rousse. Ces comédiens sont au chômage technique depuis le début du confinement, parce que, évidemment, leur théâtre est fermé. Et ils ont eu l'idée de lancer cette chaîne qui est visible sur Facebook, hein, sur le site Confinage TV. Alors, ce sont essentiellement des parodies d'émissions télé, soit actuelles, soit plus anciennes, des années 70-80, qui ont bercé notre enfance, en fait. Est-ce que vous voulez quelques titres ?
Ah, bah, évidemment.
Oh, oui,
bah, oui,
oui.
Bon, face à l'enthousiasme général, je vais. On a Tournée Mélange. Tournée Mélange.
Oui.
Alors, on voit la,
oui,
référence. C'est soit Tournée Manège, le vrai, ou Tournée Ménage des Inconnus,
ouais,
évidemment. On a aussi Gymkovic, c'est l'émission de sport de la chaîne, avec l'animateur John Fondu, qui remplace Jane Fonda. Voilà. On a aussi l'émission littéraire Limitrophe, présentée par Bernard Pavot. Et aussi le plus petit cabaret du monde, parce qu'ils n'ont pas les moyens.
Bah oui, voilà, forcément.
Et on a l'émission phare de la chaîne, le télécrochet, non pas The Voice, mais The Co-Voice 19. Voilà, avec des gens qui chantent, hein, les acteurs qui chantent les uns après les autres.
Et c'est tous les jours, ça ?
Oui, alors pas toutes les émissions tous les jours, mais il y a plusieurs émissions par jour, hein, des rendez-vous qui se créent, parce que ça dure depuis un mois. Hein. Ils ont fêté leur premier anniversaire, enfin leur premier mois d'existence. Chaque comédien donc est dans son salon. Ils sont tous reliés entre eux par l'appli de visioconférence Zoom, un peu comme nous quand on fait l'apéro le soir. Et on est vraiment dans de l'impro, hein. C'est du délire un peu en permanence, c'est souvent très drôle, et puis parfois c'est carrément n'importe quoi, faut admettre. Donc c'est plutôt à regarder en flux continu, quand on en a envie, et il y a des petites pépites à chaque fois, chaque jour.
Mais on a envie d'entendre,
bah,
Jean-Luc.
Oui, ah, évidemment. Ça.
Moi, je propose pour commencer un extrait du plus petit cabaret du monde.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Et moi aussi, je vous aime. Bienvenue dans ce plus petit cabaret du monde. J'aimerais qu'on retourne du côté de... Pas du côté de chez Swan, mais du côté de chez Josiane. Ça va, Josiane ?
Oui, ça va bien. Merci Christian Gilbert de me recevoir dans ton cabaret de plus petit monde.
Voilà, on mélange un peu tout. Je trouve, ouais, que ça fait un peu les Inconnus.
Il y a quelque chose. Chiens.
Voilà, les chiens, on dirait Zézette et Pouzix,
oui, oui,
là,
ça,
un,
ouais,
petit,
ouais,
peu.
Exactement.
Il y a de ça chez Josiane. Voilà. Alors, c'est des émissions qui durent parfois une heure. Donc, voilà, ça donne lieu à tous les délires possibles. On est vraiment dans la parodie, et c'est encore un peu plus vrai avec Tournée Mélange. Hein, je pouvais pas passer à côté.
Surtout qu'ils sont pas mal mignons, hein. Je pense que
ils sont
des jolis bébés, hein.
Et ils sont, allez, très mignons. Oscar, si tu étais un film, serais-tu plutôt Vincent, François, Paul et les autres de Claude Sautet ? 40 ans, toujours puceau. Alors dans ton cas, plutôt 30 de Jude Apatow.
Voilà, on est vraiment là-dedans. On a presque envie d'entendre Bijou Regrade, surtout après.
Vous faites bien, dis donc.
Ouais, ouais. Alors ils ont leur style à eux, très délirant. Ils ont aussi une émission de cuisine. Hein. Laurent Deutsch parlait de gâteau tout à l'heure. Émission de cuisine qui s'appelle Cuisine et confinement, écoutez.
Des musiques encore plus pourries que nous.
Bienvenue dans Cuisine et confinement. Face à vous, vous avez un homme humilié, un homme blessé. Fini les recettes hyper techniques de mamie. Aujourd'hui, c'est sandwich pour tout le monde. Un bon petit sandwich triangle.
Bah oui.
Voilà, alors après, il nous l'a fait vraiment. Hein, et je vous conseille d'aller la voir. Hein, elle est sur Facebook.
Confinage, voilà. TV, donc, sur Facebook, à découvrir. Merci Jean-Luc Boujon. Et puis, je suis sûr que, même si elle est votre adversaire dans cette manche, Anne Le Gall se joint à moi pour embrasser tous les Lyonnais.
Il y en a qui puent, hein.
Oh,
mais non, Anne, c'est pas
non, Anne, c'est pas possible.
Oh, c'est vache. Galvanisez vos zygomatiques sans pour autant négliger vos précieux cerveaux. Voilà la mission de l'Équipée Sauvage. Une mission facile aujourd'hui, puisque c'est l'invité qui va faire le gros du boulot. En effet, nous avons la chance d'être en ligne avec un véritable puits d'histoire qui, chaque fois qu'il nous rend visite, nous apprend des choses fascinantes. La dernière fois, par exemple, sur les secrets de la langue française.
Vous racontez qu'il y a beaucoup de mots qui viennent des onomatopées.
Mmh.
Mathieu Noël a un joli switch marqué Cocorico.
Ben, Cocorico, c'est le bruit du coq.
Et voilà.
Waouh, ben le, ouais, bruit du coq, Cocorico. Avec Laurent Deutsch, on découvre vraiment des trucs de dingue à chaque fois. A tout de suite.
Europe 1, 16h, 18h, l'Équipée Sauvage.
Sur Europe 1, l'Équipée Sauvage. Mathieu Noël.
Vous Vous écoutez l'équipé sauvage confinée, 2 heures en duplex de mon canapé pour oublier qu'on est encore coincé jusqu'au 11 mai minimum. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut toujours s'évader par l'esprit, notamment grâce à notre invité en ligne avec nous cet après-midi et que vous allez retrouver ce soir sur France 2, un comédien mais aussi un grand curieux qui partage avec moi une passion pour l'histoire et même, comme j'ai pu le constater la dernière fois, pour la préhistoire.
Des ours à lunettes, des araignées sauteuses ou encore le dernier dinosaure qui existe sur
Denver.
Terre.
Denver,
le dernier dinosaure, c'est mon ami et bien plus encore.
Et il y a ce dicton qui dit que les grands esprits se rencontrent. Oh là là. On en a là, je crois, l'irréfutable démonstration. Laurent Deutsch est avec nous cet après-midi. Un Laurent Deutsch qui trépigne. Il est dans les starting blocks. Je pense qu'au moment du le 11 mai, à mon avis, à 7h du matin, vous serez sur la route.
Ouais, moi, il y a deux idées. Hein. Dans ma tête, en ce moment, il y a deux possibilités. Soit on accélère et on se retrouve tout de suite le 11 mai avec un accélérateur de particules. Ils n'ont pas su nous amener des masques, mais peut-être créer un téléporteur ou un truc pour voyager dans le temps. Ou alors on recommence 2020, quoi. Je veux dire, on recommence. Il y a un bug. Il y a un virus. On recommence 2020, s'il vous plaît.
Et Laurent, ce soir, en attendant le déconfinement, en attendant qu'on puisse tous se dégourdir les jambes, on va pouvoir se dégourdir les neurones et l'esprit devant France 2 et ce programme sur les traces du baron Haussmann, le Paris du baron Haussmann. Vous vous baladez dans Paris avec Stéphane Bern. Et dans cette soirée, on apprend aussi des petites anecdotes qui sont assez marrantes. Comme ça, moi, personnellement, j'ai découvert deux choses que je ne savais pas, notamment pourquoi la couleur rouge est si présente dans les théâtres parisiens.
Ah, c'est génial, cette histoire.
Alors, ce qui est curieux, c'est que moi, j'ai appris l'inverse. Après, à l'école, on m'a toujours enseigné. Ouais. On m'a toujours dit que le rouge était une couleur stressante, angoissante. Ouais. C'est pourquoi les chambres sont rarement en rouge, parce que c'est une couleur qui énerve. Vous n'avez qu'à penser au taureau. surtout, je ne vous raconte pas un taureau confiné, vous le mettez dans une chambre rouge, il défonce tout. Mais pour le théâtre, l'architecte Garnier a pensé que le rouge était une couleur qui allait bien aux femmes. Et donc, il a habillé son théâtre de couleur rouge parce qu'évidemment, quand on allait à l'opéra, c'était un lieu de représentation. Donc, les femmes entraient toutes bien habillées et elles étaient dans ce décor, dans ce rouge merveilleux qui les encadrait très bien.
Voilà donc pourquoi les sièges sont rouges dans les théâtres et l'opéra, c'est fou. Et alors, pourquoi on dit, c'est incroyable, pourquoi on dit merde pour souhaiter bonne chance à quelqu'un? Moi, c'est une question que je me suis souvent posée, je trouve pas ça très élégant, mais je le fais, je m'y plie, c'est la règle. Mais pourquoi? D'où ça vient?
Ça vient des théâtres et ça vient de Paris en particulier. C'était les comédiens de la Comédie française quand ils étaient installés du côté de l'Odéon. Donc on est à la fin du XVIIIe siècle. Et évidemment, à cette époque, on allait au théâtre ou à pied ou à cheval ou en carrosse. Et plus il y avait d'affluence, donc plus il y avait de chevaux, donc plus il y avait de crottins de cheval. Donc les comédiens regardaient par la fenêtre de leur loge et s'il y avait beaucoup de crottins dans la rue, ça voulait dire qu'il y avait des spectateurs. Donc on souhaitait merde parce qu'on souhaitait évidemment du monde, de la réussite et des spectateurs.
C'était le médiamétrie de l'époque, en fait.
Exactement. Ouais, mais rien n'a changé.
Dans ce documentaire, on réalise l'ampleur des travaux à l'époque. On râle souvent, on entend souvent des gens râler contre Anne Hidalgo parce qu'il y a des travaux dans Paris en ce moment. À l'époque, les travaux du baron Haussmann, ça devait être quelque chose de... Les gens râlaient, j'imagine, à l'époque.
Ouais, enfin, ils n'avaient pas trop le choix. Hein, parce que vraiment... Haussmann était le préfet. Hein, il était préfet, ouais. Il n'était pas que architecte. Donc, il y avait des expropriations massives. Il y a eu des drames. On peut pas nier que Haussmann a chassé des gens à la périphérie. Hein, il a créé ce qu'on a appelé la zone, les zonards, tous ceux qui n'avaient pas les moyens de vivre dans le centre se sont retrouvés dans les bordures, plus ou moins volontairement, et ça a été des moments très éprouvants, les travaux ont été dingues, mais au final, il faut reconnaître que Haussmann a eu une vision, Napoléon III a une vision pour Paris, puisqu'il a préparé Paris au défi de l'avenir, et encore aujourd'hui, en 2020, Paris sait faire face, quoi. Donc c'est assez incroyable, et voilà, 170 ans après, nous qui n'avons pas vécu le confinement, les travaux et l'enfer d'Haussmann, on ne peut que s'en réjouir.
Justement, ça me fait penser, quelle est votre position par rapport au Grand Paris, Laurent Deutsch? C'est un projet qui vous séduit, qui vous fait peur?
Ah bah oui, je trouve ça assez agréable de se dire que dans une période où justement on a la sensation que tout se referme, tout se contracte, il y a des Anglais qui s'en vont, on parle de plus en plus des frontières, des choses comme ça, je suis heureux de me dire que paradoxalement Paris, elle, fait sa mue, elle s'ouvre et elle fait sauter ses barrières. Paris se conçoit non pas comme une ville frontière, mais une ville fluide qui va agrandir ses espaces et dont les limites ne seront plus, comme ça l'a toujours été, une enceinte, jusque dans les années 60, mais avec donc cette espèce de grande ligne de métro, plus ou moins aérienne. Enfin, j'avais vu des projets dingues, notamment ceux de Portes en Parc, qui nous montraient comment définir, délimiter les contours de ce grand Paris qui va avaler sa banlieue, avec un train comme ça, où on en fait le tour comme un chemin de ronde, mais ouvert et qui permet la circulation et la communication, et non pas qui ferme et qui rend, comme dirait Victor Hugo, un murmurant Paris qui rend Paris murmurant.
Oh, c'est beau.
Wow. Ouais. Terminé sur une station Hugo, ça vous fait rêver.
Je lis. Je bats des records, j'ai lu Guerre et Paix, Tolstoï en 3 jours. Je vous défie d'en faire autant.
Mais vous avez quand même 3 enfants à proximité de vous, là, non, pendant ce confinement?
Oui, alors... Si on peut, alors je fais un message personnel, je suis très content qu'on applaudisse les soignants, tous ceux qui prennent des risques, les médecins qui nous sauvent la vie et qui nous permettent de sortir, j'espère, le plus tôt possible de cet enfer, à 8h, donc on les applaudit avec nos casseroles. Mais si à 8h03, on peut applaudir les professeurs et les enseignants qui s'occupent de nos enfants tout au long de l'année, parce que c'est costaud quand même. Hein. Moi, 3 enfants, j'avoue que ça me laisse pas le temps pour autre chose. Je suis totalement sec, j'arrive pas à me mettre dans des projets parce que je suis avec eux. Après, c'est formidable parce qu'ils sont très chouettes et on est privilégiés de les voir travailler. Moi, je les vois apprendre et dans une situation auquel j'ai pas le droit. Hein, on n'a pas accès aux salles de classe. Mm-hmm. Là, on les voit progresser, on les voit apprendre, on les voit se prendre la tête. Donc, j'en ai 3. Moi, j'ai toutes les tailles. Hein. J'ai 6 ans, 8 ans et 9 ans. Et je trouve ça, là, par contre, c'est un moment assez béni et de les voir avancer, de les voir progresser, d'apprendre leur table de multiplication, d'apprendre le français et tout. Ça, j'adore. C'est le bon côté de ce côté-là du confinement, d'avoir pu faire la classe à mes enfants avec le professeur.
Mais j'imagine que pour vous, c'est aussi un plaisir, Laurent. Je vous aimais tellement transmettre la culture, l'histoire, être prof d'histoire de vos enfants. À mon avis, ça doit pas être trop dur pour vous. Déjà, vous connaissez tout de mémoire.
Ouais, puis en plus, alors là, le programme me plaît bien, surtout pour ma grande qui est en CM1, elle étudie les grands explorateurs, les grands navigateurs, donc elle étudie Christophe Colomb, Cartier, Magellan, Vasco de Gama, et donc on voyage, et du coup, on a des têtards, et les têtards ont des noms d'explorateurs, et c'est au premier qui va faire sa mue, et qui va sortir de la cuvette. Donc non, oui, c'est des périodes qui me plaisent bien, là, en CM1, là, on voyage, et c'est déjà un petit peu un déconfinement de faire l'histoire avec elle.
Merci pour votre enthousiasme, Laurent Deutsch. On a hâte de vous retrouver déconfiné en studio. Il vous donne rendez-vous ce soir sur France 2 à 21h pour la folle aventure du Paris haussmannien. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi, Laurent.
Merci à vous et bon courage à tous.
Europe 1.
Plusieurs questions d'importance variable dans la suite de cette émission. Pour éviter une pénurie rapide, peut-on envisager de recycler les masques normalement jetables? Quel programme ludo-éducatif proposer à nos chers enfants pour qu'ils nous foutent un peu la paix cet après-midi? Et enfin, Anne Le Gall a-t-elle vraiment un problème avec l'alcool?
En fait, gros lard ou pisely, c'est la contraction de... Voilà, pisely, gros lard ou polar bear et grizzly.
Les gagnants ne sont pas les rouleaux de PQ.
La réponse est peut-être dans la chanson qui suit. Je bois. Boris Vian sur Europe.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Bonne humeur, journalisme sont, vous le savez, les deux mamelles de l'équipe est sauvage. Mais par les temps qui courent, j'ajouterai une troisième mamelle. Ça commence à faire certes beaucoup de mamelles, mais il ne faut pas chercher à visualiser. Cette troisième mamelle qui pendouillerait entre la bonne humeur et le journalisme, ce serait la solidarité. Une valeur qui est au cœur de la philosophie d'Ici les bonnes moules, la communauté écolo décroissante d'Ici les moulineaux, fondée par Anne Le Gall, notre expert environnement. Philosophie inspirée des œuvres de Proudhon, de Rousseau, mais également de ce socialiste qui faisait du socialisme sans le savoir, un peu comme Monsieur Jourdain faisait de la prose.
Donnez-moi.
Anne, vous êtes une des toutes premières à avoir rejoint le courant de pensée enrico-massiste. Vous vivez littéralement pour votre prochain. Et une question vous turlupine actuellement. Pourquoi ne trouverait-on pas un moyen de recycler tous ces masques à usage unique qui s'apprêtent à partir à la poubelle dans les semaines qui viennent?
Eh ben voilà, c'est une bonne question. Alors je précise tout de suite que je ne vous parle pas des masques grand public qui sont en tissu, lavables et qu'on peut passer à la machine. Je vous parle des masques sanitaires qui sont donc réservés aux soignants et aux malades sur ordonnance, donc les fameux FFP2 et les masques chirurgicaux. D'ailleurs, au passage, vous savez ce que ça signifie, les lettres
non.
FFP?
Non. Vous allez nous le dire.
C'est en anglais, j'imagine? Oui, c'est de l'anglais. Ça signifie Filtering Face Piece, donc pièce faciale filtrante.
Ensuite, le chiffre 2, c'est le niveau de filtration du masque. Donc le 2, c'est un niveau de 90% de particules filtrées. C'est le niveau nécessaire pour faire barrière au virus. Il existe aussi un niveau 3 qui filtre 99% des particules. Et là, ça sert par exemple à filtrer l'amiante ou certaines molécules dans des gaz polluants. Donc ça, je ferme la parenthèse. Hein, c'était la minute culture G. Donc aujourd'hui, ces masques, vous le savez, les masques chirurgicaux ou FFP2 ne se lavent pas. Ils ne se recyclent pas. Ils sont à usage unique. Il faut les jeter au bout de 4 heures. Ce qui évidemment génère beaucoup de déchets, mais c'est pas le problème principal, c'est que aujourd'hui ça semble carrément aberrant cette situation dans une période de difficulté d'approvisionnement.
Bah oui. Ouais.
Et donc, et voilà, c'est pour ça que partout dans le monde, des chercheurs planchent sur toutes les techniques qu'on pourrait trouver pour les désinfecter, donc pour éliminer la moindre trace de virus sur ces masques usagés. Donc évidemment, il s'agit de ne pas les abîmer, de ne pas altérer leur capacité de filtration. Alors, c'est vraiment très sérieux cette histoire parce que en France, les équipes qui travaillent là-dessus relèvent de nos plus gros instituts de recherche. Donc, il y a les CHU, bien sûr, mais aussi l'INSERM, le CNRS, l'Agence de sécurité sanitaire, le Commissariat à l'énergie atomique. Et les recherches sont en cours depuis le début du mois de mars.
Et du coup, quelles sont les pistes, Anne, pour nettoyer ces masques médicaux?
Alors, c'est vraiment la grosse artillerie. Hein. Il y a une équipe qui planche sur une irradiation par des rayons gamma, donc des photons à très haute énergie, ou encore sur un lavage par des faisceaux d'électrons, des rayons bêta. Et il y a une autre équipe qui travaille sur le nettoyage avec des détergents à 95 degrés, ou alors un passage dans un autoclave à 121 degrés pendant 50 minutes. Donc l'autoclave, c'est une machine industrielle qui sert à la stérilisation. Et si on regarde les travaux, il y a une autre équipe qui planche aussi sur la chaleur sèche. Donc le passage dans un four très chaud, ils vérifient que ce serait pas plus efficace que la chaleur humide. Et à l'étranger, les Américains et les Chinois travaillent aussi sur l'efficacité des ultraviolets pour nettoyer ces masques. Et les Hollandais étudient la piste du peroxyde d'hydrogène.
Ça va coûter une fortune hein, de faire du recyclage. Hein.
Très bonne remarque, Eva. Et est-ce qu'on sait déjà au moins, parce qu'on ne sait pas combien ça coûte, mais est-ce qu'on sait si ça fonctionne?
Oui, Eva a raison. Il y a la question du coût. Il y a la question aussi du passage à grande échelle. Alors pour l'instant, la piste de l'autoclave, donc chauffage à 121 degrés, et celle des UV et des rayons gamma semble être prometteuse. Mais voilà, faudra vérifier non seulement que ça fonctionne en laboratoire, mais qu'on peut aussi l'appliquer à tous les masques à grande échelle.
Et en attendant, on peut rappeler, Anne, que pour les masques en tissu grand public qu'on va tous avoir bientôt, le lavage à 60 degrés suffit.
Voilà, donc lavage à 60 degrés pendant 30 minutes au bout de 4 heures d'utilisation du masque, hein, c'est 4 heures maximum. Donc on utilise sa lessive habituelle pour le lavage, pas d'adoucissant, on n'utilise surtout pas d'eau de Javel qui risque d'abîmer le masque et de laisser des particules toxiques sur les fibres. Et ensuite, il faut bien penser à faire sécher son masque en tissu. Et là, ce sont vraiment les consignes des autorités sanitaires.
Je précise, ne pas faire sécher son masque en plein air surtout. Vous le faites sécher à l'intérieur.
Pourquoi?
Et oui, parce qu'en plein air, vous risquez de choper tout ce qui flotte dans l'air, quoi. C'est pas bien pour votre masque.
En plein air, si on est dans un jardin, par exemple, on peut
le
faire.
Non, faites-le à l'intérieur. Ah, ouais. Et vous le faites pas à la sécheuse non plus.
Une consigne en plus d'Eva Rock, du CNRS et d'Europe 1. Merci beaucoup, Eva. Merci surtout, Anne Le Gall. On vous laisse reprendre le cours de vos activités. Je crois savoir que cette semaine, vous perfectionnez votre anglais grâce à l'appli Duolingo. Ça marche bien?
Not in my, backyard.
Ah, ouais,
j'ai des progrès à faire.
Ouais.
Europe 1.
Il est faux, et même populiste, d'affirmer qu'on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres. Non, les chiffres sont clairs comme de l'eau de roche, en tout cas en ce qui concerne les résultats d'Eva dans le quiz de Culture G qui l'opposait jadis à l'invité. Victoire de l'invité, 153. Victoire d'Eva, 8.
Avec
tout
triche.
Est dit. À moins, bien sûr, Eva, que vous ayez quelque chose à ajouter.
Connard. Voilà.
Culture.
Exactement.
Et élégance, le meilleur du quiz. À suivre.
Europe 1, l'équipée sauvage. 16h, 18h. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
C'est une séquence toujours douloureuse pour ma chère et tendre Eva Rock. Ce moment où, non sans une perverse gourmandise, je la confronte à un condensé souvent édifiant de ses performances dans le quiz de Culture G qui l'opposait autrefois à l'invité. Les thématiques étaient variées, mais pas assez. L'histoire, la musique, le sport, tout ça est bien joli. Mais si seulement un jour le thème du quiz était tombé sur imitation de Roger Hanin dans Le Grand Pardon,
voilà.
Là, Eva aurait eu sa chance.
Je vais te divulgâcher les derniers épisodes de Game of Thrones, tu vas voir. Je te donne une claque, le mur il t'en redonne une. une autre.
À l'instant, ce SMS de Richard Berry. Merci Eva. Émotion. J'ai cru entendre Roger.
Ah bah voyez.
Pour fêter ça. Hein bah oui, bah voilà. Richard cautionne. Eva, je vous propose qu'on se réécoute quelques-unes de vos plus belles performances.
Allez.
Dans le quiz. Eva Rock, vous êtes prête à affronter Vincent Lacoste?
Ah, je crois qu'il y a d'avoir un
convention non,
de débit.
Si vous êtes prête.
Oui, mais je vais encore me faire rétamer là.
Voici donc, en hommage au film qui vous a révélé au grand public, Les Beaux Gosses, un quiz sur les hommes ayant un physique que l'on peut raisonnablement qualifier d'avantageux. Enfin, en même temps, comme je suis dans le quiz à un moment, je sais pas qui a fait ce quiz, c'est un peu bizarre. C'est un vrai faux, vous répondez à tour de rôle, chaque bonne réponse vaut un point. Vincent Lacoste, Leonardo DiCaprio possède des parts dans une société américaine basée à San Diego, Doggy Cream, une entreprise qui propose des glaces pour les chiens. Vrai ou faux?
Faux.
Faux. Et c'est vrai que c'était tellement con que moi j'aurais dit vrai.
Ah,
il possède une société de café équitable, Leonardo.
Ah,
pourquoi?
Oui, bah,
il a besoin de faire un peu de,
ouais.
Un peu de bénéfice en plus.
Ouais.
Bien joué.
Ouais.
Quiz beau gosse pour vous, Eva Rock. David Pujadas. David Pujadas. Qu'est-ce que vous dites, Eva?
Non, j'ai rien dit.
Si vous vouliez, vous aviez commencé une phrase que vous êtes interrompu.
Non, non, non. Ça se saurait si j'avais de l'humour.
David Pujadas a été renvoyé de son école car suite à un pari, il est allé au tableau de classe en slip. Vrai ou faux?
Ah, il est tout à fait capable de faire ça, j'irais vrai.
Ah, vous connaissez bien David?
Bah, un petit peu.
Ça s'est passé dans l'Ain. Dans son lycée, il a été renvoyé 3 jours suite à un pari qu'il a lui-même qualifié de stupide. Question bonus que j'ajoute comme ça au hasard.
Oui.
Quelle est la spécificité de ce lycée dans l'Ain?
C'était un lycée où il y avait que des garçons?
Presque ça. C'était juste le même lycée que moi. On était dans le même lycée avec David Pujadas. Vous
ah,
ne pouvez pas connaître
super,
la réponse.
D'accord.
Si, bah vous auriez pu réfléchir.
Mais le type, il est mytho. Il a fait ses études en Suisse. Après, il était je ne sais où.
Ça
et maintenant,
il est
dans
n'importe quoi.
Moi, non, c'est mon métier. Voilà. Attention. Une question, 3 propositions. Vous répondez ensemble. Brad Pitt est beau. C'est un excellent acteur. Et il a un talent caché. Lequel? 3 propositions. 1. Non, là, il n'y a pas eu de vanne encore. Ça n'a pas de sens de rire. C'est-à-dire que je veux bien que vous soyez mon sparring partner et que vous riez dans l'émission. Mais vraiment, il faut pas rire n'importe quand. Sinon, ça dévalorise tout le travail fait ailleurs dans l'émission. Voyez. Alors, Brad Pitt a un talent caché, lequel? 3 propositions. 1. Il a fait des compétitions de Monopoly. 2. Il pratique la photographie animalière. Ou 3. Il fait du yodel, le célèbre chant tyrolien.
La deuxième, là, c'était quoi déjà?
Il pratique la photographie animalière.
Oui, je pense qu'il doit photographier des animaux. Ouais.
Pourquoi dans votre bouche ça sonne pervers? Ouais, photographie des animaux. Ouais. Et ben.
Ah, le yodel, j'aime bien.
Vous aimez bien le yodel?
Ouais.
C'est pas comme quoi la chance vous sourit.
C'est vrai?
Écoutez. C'est vraiment un grand acteur. Il a fait cette performance dans l'émission de l'humoriste Jimmy Fallon.
Ah, c'est génial.
Eh oui.
C'est votre idée, Axel de Tarlé.
Non, alors surtout pas. Surtout pas l'idée, Axel de Tarlé. Restez silencieux. Vincent Lacoste, le quiz des beaux gosses continue. Un jour, j'ai vomi sur Claire Chazal. Vrai ou faux? C'est moi.
Vrai.
C'est vrai, on ne révélera pas dans quelles circonstances, on n'a pas le temps, mais c'est vrai que depuis sur là, chaque fois que je croise Claire Chazal, elle a un petit peu peur. Elle évite de me faire la bise. Oui. Enfin, dernière question qui va vous départager. Attention, Eva Rock, Chuck Norris s'appelle en réalité Carlos. Vrai ou faux?
D'abord, je vois pas pourquoi questionnaire beau gosse, mais enfin.
Chuck Norris.
Ah oui, Chuck Norris. Ouais,
il est historique, voilà, Chuck Norris,
oui.
Quand même.
Non, c'est faux.
Eh bien, c'est vrai, de son vrai nom, Carlos Rey Norris, on embrasse l'acteur de Walker Texas Ranger et l'interprète de Papayou. Égalité dans ce quiz. Égalité! Bravo,
il a 26
donc
ans,
à
Vincent
tous les
Lacoste,
deux.
J'aurais dû le laminer quand même.
Vous auriez dû le laminer, mais vous ne l'avez pas fait une fois de plus.
Je me suis fait avoir sur le Brad Pitt.
Sur le Brad Pitt, mais c'était dur le Brad Pitt en même temps, il fallait deviner.
Europe 1.
Confinement, jour 45. Les questions tournent en boucle dans nos têtes, surtout ceux d'entre nous qui ont eu la mauvaise idée de faire des enfants sans imaginer un instant qu'on serait un jour confiné avec eux 24 heures sur 24. Comment télétravailler sereinement, gérer un conf call, ou même ne serait-ce que faire un câlin à sa femme? Certains, comme Anissé Mbida, notre expert innovation en escapade coquine, mettent en place des stratégies quasi militaires, comme il nous le confiait hier hors antenne.
Bah oui, c'est compliqué avec les enfants qui courent partout. Maintenant, on est obligé de trouver des astuces pour bloquer les portes.
Pour bloquer les portes, vous mettez quoi? Des livres, d'ailleurs, vous mettez quoi?
Non, des chaises et un lit qui bloquent.
C'est bon, ça. Mais il y a plus simple, les amis, que déplacer un lit ou coincer une porte avec une chaise. Mettre tout simplement vos gosses devant la télé.
Ah oui,
vous
mal,
aurez
ça.
La paix un petit moment.
Oui.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h. Mathieu Noël.
Françaises, Français, si je m'adresse à vous si solennellement ce 45e jour de confinement, c'est que nous vivons une période extrêmement dangereuse. ils risquent d'avoir notre peau. Non pas le virus, nos enfants. Des enfants qui, désormais confinés avec nous, prennent une place bien trop importante, voire envahissante dans nos vies, parfois même professionnelles. Comme nous l'expliquait hier, visiblement à bout, Axel de Tarlet, notre expert éco, qui écrit désormais ses chroniques sous le contrôle de son fils de 12 ans, qu'il regrette, je peux vous dire, d'avoir inscrit dans une école Montessori où on lui met de drôles d'idées dans la tête.
Il m'envoie des emails pour que je teinte d'altermondialisme mes chroniques économiques. Bien gauchiste, c'est mon conseiller éditorial.
Faire virer à gauche, Axel de Tarlet, c'est bien la preuve que ce confinement va trop loin. Et là, je suis sûr que vous avez une solution pour empêcher les enfants de prendre ainsi le contrôle.
Exactement, mais alors si je suis pas canonisé par les parents à la fin de ce confinement, je démissionne moi. Je vais vous faire gagner des heures de paix aujourd'hui, d'abord avec une pastille à retrouver sur France.tv pour les petits à partir de 6 ans. Ça s'appelle C'est qui ? Les épisodes durent 2 minutes et sont en 2 parties. Alors la première partie, vous devez deviner de quel personnage on parle avec des indices et puis des lettres. Exemple.
Nous cherchons un auteur français de romans d'aventure des années 1860.
Pas d'idée ?
L'un de ses romans les plus célèbres qui se passe sous les mers a été traduit en 147 langues.
Je dois répondre là?
Oui, allez-y.
Jules Verne.
Mais oui, Jules Verne.
Oh,
en l'occurrence.
Je suis fort comme un enfant de 6 ans.
Jules Verne présenté comme l'inventeur de la science-fiction. Dans la deuxième partie de cet épisode, la pastille animée en guise de jeu pour accroître sa culture générale. Voilà, c'est ça l'objectif de C'est qui, que je vous conseille d'ailleurs de regarder en famille. Alors c'est une sorte de jeu en fait, hein, parce qu'on essaie de deviner de qui on parle. Et puis après, la deuxième partie de la pastille, c'est vraiment le portrait du personnage. Vous allez pouvoir découvrir Pythagore, Léonard de Vinci, Albert Einstein, et puis aussi des artistes comme Chaplin, Mozart ou Coco Chanel. C'est sur France.tv et c'est gratuit, vraiment. 5-6 ans, vous pouvez commencer, c'est très sympa.
Et vous savez que je suis un peu près de mes sous en ce moment. Est-ce que la suite de vos conseils est gratuite aussi?
Oui, et alors vous n'allez pas manquer de contenu grâce à un site absolument magique. Je vous en avais déjà parlé il y a assez longtemps de ça. Le site filmpourenfants.com, film au pluriel, -pour-enfants.com. Et sur ce site, il y a des dizaines et des dizaines de films d'animation issus de partout dans le monde qui sont destinés aux enfants à partir de 3 ans. Moi j'ai craqué notamment, c'est un au hasard parce qu'il y en a tellement, j'ai pas pu tous les regarder, mais j'ai craqué sur Leitmotiv. C'est l'histoire en 5 minutes d'un pianiste de jazz qui est un peu nostalgique, il est tout seul dans sa chambre de bonne, il joue un petit peu au piano, mais voilà, il s'ennuie, il y a son chat autour de lui, il est nostalgique de tous ses copains musiciens qu'il ne voit plus, et alors il va lui venir une idée, il va prendre tous les instruments dont il dispose, mais aussi des fourchettes, un abat-jour, des têtes d'objets qu'il va agencer dans sa pièce et qu'il va relier pour former un orchestre, sauf qu'il y a aussi, tendez bien l'oreille, comme je vous le disais, un chat. On dirait bien, vous voyez, voilà.
D'ailleurs, je ne sais pas où elle est partie, j'espère qu'elle n'est pas partie sur le balcon.
Et bien alors, si c'est celle qui tourne autour du pianiste de jazz, je vais vous dire, c'est pas très malin parce que le matou va mettre à mal l'orchestre mécanique du vieux musicien, bien évidemment. Ça va être une catastrophe. Alors, à l'instar de ce film, tous les courts-métrages qui sont disponibles sur le site sont poétiques, sont drôles. Ils mettent en avant à chaque fois les arts, hein, la peinture et la musique principalement. Mais c'est aussi des clés de compréhension pour les enfants avec un film sur la peur, un autre sur l'amitié. Sincèrement, prenez le temps de grignoter toutes ces petites pépites d'animation. Bravo à l'association qui gère ce site. C'est un site qui fonctionne uniquement grâce aux dons et à une forme d'abonnement de la part des écoles notamment. Super visionnage à faire tout le week-end, toute cette fin de semaine et puis jusqu'à la fin du confinement. www.filmaupluriel-pour-enfants.com. Vraiment, vous n'allez pas le regretter. C'est absolument magique.
Mais c'est pas à vous que je fais ça, Eva. C'est
ah,
la
dommage.
Mienne, parce que je ne sais pas où elle est et j'essaie de la faire venir. Merci Eva pour cette chronique.
Europe 1.
Chères auditrices, avec des statistiques largement en sa défaveur, notamment seulement 33 changements de slip en 45 jours de confinement, votre mari vous déçoit. Pire, il accuse le coup sur le plan de la libido. Hier soir encore, il vous a déçu.
C'est mon amour.
Non, je ne crois pas, non.
Pourquoi ?
Pas envie.
Pas de panique, je suis là, moi.
Ah bon ?
Et je vous donne rendez-vous pour une deuxième heure de compétition journalistique qui s'annonce palpitante, voire, si je suis en forme, enivrante.
16h, 18h,
l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Europe 1,
16h, 18h, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire, même en cas de pandémie qu'on ne sait pas trop comment on va en sortir, vous écoutez l'équipe est sauvage. L'émission Feel Good par excellence qui vous fait voir le verre à moitié plein, même si dans les laboratoires de l'Institut Pasteur, les discussions entre les chercheurs ne sont pas rassurantes.
Oui, exactement.
Il nous faut des pouvoirs magiques.
C'est ça. Je vois pas en quoi c'est une bonne nouvelle, mais c'est ça.
Ah oui, c'est ça. C'est vrai.
Ma fidèle complice, mon vaccin contre la sinistrose. Comment se porte la divine Eva Rock?
Divinement bien, mon cher Mathieu. Ouais, divinement.
Tout à l'heure, vous nous direz, Eva, ce qu'on regarde et ce qu'on zappe ce soir sur les écrans.
Beaucoup, beaucoup de rire. Ouais, c'est de la comédie aujourd'hui. Ah, ouais, du rire.
De la comédie. Oui. On va encore voir du Louis de Funès, quoi, c'est ça?
Ah non. Non, non.
Ah non?
Non, non.
Et
non, non.
C'est des choses que j'aime bien moi personnellement
ou... Un truc que vous adorez.
Moi, ouais. Coquinette. Vous allez nous dire ça, mais ne perdons pas de vue, ne perdons jamais de vue que l'équipe sauvage sous couvert de bonne humeur est avant tout une rageuse compétition. Et deux nouveaux journalistes nous ont rejoints pour rafler le titre de chroniqueur du jour qui leur ouvrira les portes de fabuleux cadeaux, comme par exemple 10% de réduction à la cantine le jour où elle réouvrira.
Ah, génial.
Comme vous dites Eva. On peut dire qu'on les gâte nos champions, même si on commence aujourd'hui sur un triste constat. Il était la classe incarnée, le Laurent Veil d'Europe 1. Notre monsieur cinéma, un des journalistes les plus performants de la rédaction, toujours concentré et fluide comme une bonne bernaise. Hélas, depuis l'annulation du Festival de Cannes, sa récréation annuelle, il n'est plus que l'ombre de lui-même et même les phrases les plus simples deviennent compliquées.
Mais parapluie de Cherbourg, il y a du Chaplin, du David Lynch, du Dirk Vizet... Putain.
Bonjour Mathieu Charrier.
Bonjour, c'est la fatigue, c'est la fatigue.
Comme le cinéma en général, vous n'allez pas fort, mais c'est ça qui est flippant. Le cinéma va peut-être encore plus mal que vous, Mathieu, et semble prêt à tout, comme vous allez nous l'expliquer, pour repartir du bon pied après la crise.
Ben oui, puisque les cinémas, ils n'ont toujours pas date de rouverture, les tournages n'ont toujours pas date de reprise, et pour reprendre une réplique célèbre, c'est vraiment la caca, la cata, c'est la...
Catastrophe.
Merci, ça suit. Donc on verra effectivement comment le milieu essaie tant bien que mal de s'organiser avec des initiatives plus ou moins originales.
Face à un animal comme Mathieu Charrier, qui de mieux qu'une vétérinaire comme Farah Kessri? Bonjour Farah.
Bonjour.
Farah qui a longuement étudié le charrier dans son milieu naturel, le show business. Et même si c'est un animal aussi polémique que le pangolin, elle est formelle.
Bon, mais c'est vrai que c'est un réservoir à virus, mais il ne faut pas s'arrêter à cette caractéristique.
Mais non, voilà, voilà. Mais non, c'est vrai, mais non. Évidemment qu'à force de traîner dans les festivals et les cocktails des festivals, il y a fond d'attrape des ch'touilles, mais globalement, Charrier n'est pas un mauvais bougre. Et d'ailleurs, Farah, vous nous parlez aujourd'hui de l'importance du contact physique pour les animaux, eux aussi.
Oui, absolument, mais vous savez, on vit quand même un drôle de monde. Hein. En ce moment, après le paiement sans contact, on va vivre les relations humaines sans contact. Et apparemment, ce qui semble manquer le plus aux Français, c'est justement le contact physique. Le virtuel ne suffit plus. Et si toucher l'autre est si important, c'est parce que c'est vital et ça l'est pour tous les animaux sociaux. On le verra après.
Eva vous confirme, on est en manque de contact physique, mais certaines plus que d'autres.
Oui.
Alors, la gueule de bois du cinéma qui craint pour son avenir ou l'importance du contact physique chez les animaux, qui d'ailleurs l'exprime parfois par de grands cris.
Po, 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 po.
Notamment le charrier d'Amazonie, fascinante nature. La réponse tombera juste avant 18h, les amis. En attendant, c'est l'heure de prendre des nouvelles de votre confinement. Comment ça se passe en ce 45e jour? Vous nous envoyez vos messages directement sur l'adresse mail de mon éternel complice et en ce moment secrétaire, Eva Rock, eva.rock@europe1.fr.
Bonjour la Sauvage Family, je suis Sébastien et j'habite aux portes de la Suisse normande dans le Calvados. Pour moi, le confinement, c'est calme, campagne, champ d'oiseaux, barbecue, jardin et travail aussi, car je suis chauffeur routier et en cette période difficile, j'achemine à travers la France tout ce qu'il vous faut et tout ce qui vous est nécessaire. Sur la route, c'est nos stress, nos bouchons, nos fermetures, bref, que du bonheur. Bonjour aux amis Twitos de l'équipe Les Sauvages et des ex de Debout les Copains. Passez à la maison quand vous voulez, on se fera une bonne côte de bœuf au barbecue bien sûr. On se retrouve très bientôt. Bisous les amis.
Merci, c'est Sébastien. Mais oui, merci. Ah, c'est à plus de 100 km de chez nous, là, pour l'instant. On va pas pouvoir y aller pour l'instant, Mathieu.
Oh, un barbecue en Suisse normande, ça serait vraiment mon rêve.
On embrasse Sébastien qui nous écoute souvent depuis son camion. Et puis, on a eu aussi un message de Hugo. Écoutez bien, alors attention aux calories. Hein.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour Eva Rock. Même si le confinement touche à sa fin, il aura paradoxalement apporté son lot de bonnes nouvelles. Il aura été l'occasion de se remettre au fourneau. Au menu pour le moment, risotto aux asperges et aux crevettes, mousse au chocolat et j'arrête vos confits au miel à la façon de Guillaume Gomez, et le brownie chocolat noix de pécan caramélisé de Cyril Lignac. S'il faut bien travailler pour valider son semestre à la fac, il ne faut pas oublier de s'entretenir physiquement. Encore plus agréable lorsque l'oncle parisien s'est mué en coach sportif à distance et qu'il n'y va pas de main morte. Les fessiers abdominaux, quadriceps et pectoraux de la famille s'en souviendront. Dans l'Ouest lyonnais, Hugo Darissoglou, Europe 1.
Merci. Merci beaucoup Hugo, merci à vous tous. Vous continuez à nous envoyer vos messages sur ma boîte mail eva.rock@europe1.fr. Si vous voulez faire passer des petits coucous, des petits messages à vos proches, n'hésitez pas, voilà, on est aussi là pour ça. Et merci encore pour tous les messages que vous nous envoyez tous les jours.
Comment ça se passe chez vous, les amis, notamment Mathieu Charrier et hors antenne, vous nous disiez que vous attendiez un colis, une livraison aujourd'hui assez importante visiblement pour votre quotidien confiné. Est-ce que vous pouvez partager avec nos auditeurs le contenu de ce colis?
De l'eau pétillante.
Bien sûr.
De l'eau pétillante. Et bien évidemment, comme je n'utilise pas les offres de cette émission, nous ne découvrirons pas demain qu'il s'agissait en fait de pinards. Évidemment, merci Mathieu Charrier pour ces nouvelles de votre confinement. Si vous n'aimez pas le cinéma, si vous n'aimez pas les animaux, alors comme disait Belmondo,
allez vous faire foutre.
Et voilà.
Sinon, restez avec nous. L'équipe est sauvage continue.
Europe 1.
Le cinéma va-t-il dans le mur et avec lui la carrière journalistique de Mathieu Charrier? Notre monsieur cinéma, ne vous le cache pas, il est très inquiet. Et comme à chaque fois qu'il est inquiet, il mange du Nutella. Résultat, lui qui était fin et tonique comme un bambou avant le confinement, a constaté dernièrement l'apparition de poignées d'amour.
Elles sont assez belles, 45 cm d'envergure.
Oui, le cinéma français et la ligne de Mathieu Charrier qui vont de pair, peuvent-elles être sauvées? Si oui, comment? La réponse juste après Chris Isaac, Blue Hotel sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures d'une chevauchée rieuse sur la grande plaine du savoir, en compagnie des plus brillants et surtout des plus habiles journalistes de la rédaction d'Europe 1. Parmi eux, celui qui a réussi, à force d'intrigues et de ruses, à s'imposer comme le monsieur cinéma d'Europe 1, juste parce qu'il était abonné à Ciné Live. Le Bobby Wing des ondes, Mathieu Charrier, qui depuis réussit à donner le change et à passer aux yeux de tous pour un authentique cinéphile, même si parfois, en prononçant le nom d'un célèbre réalisateur français, il se trahit.
Un catalogue de films de patrimoine avec du Truffaut, du Chaplin, du Jack Demi. Jack Demi.
Yeah, the famous Jack Demi, world famous, bien sûr. Alors Mathieu, on le sait.
C'est mon côté américain, ça.
On le sait, l'industrie du cinéma est frappée de plein fouet par la crise du coronavirus, victime notamment des mesures de confinement. Alors pour rouvrir les salles au plus vite, le monde du cinéma est prêt à tout.
Ben oui, parce que il faut bien le dire, c'est un peu un jour sans fin pour le monde du cinéma. Vous avez repéré la référence.
Oui,
enfin, monsieur est vraiment cinéphile.
J'en ai ponctué comme ça dans cette chronique. Alors effectivement, le monde du cinéma qui chaque matin espère avoir une date et des conditions de réouverture et qui chaque soir se couche sans en avoir. Car avant-hier encore, Édouard Philippe est resté très flou sur ce point, renvoyant à début juin, date à laquelle peut-être certains cinémas dans les fameux départements verts pourront peut-être rouvrir et encore. Pour d'autres, ce ne sera sûrement pas avant septembre. Bref, on est dans la brume, pour reprendre le titre d'un petit film de genre très bien porté par Romain Duris. Les exploitants de salles, vous savez, estiment avoir déjà perdu 300 millions d'euros dans cette affaire. En fait, il y a deux problèmes. C'est d'abord, quel film montrer lors de la réouverture des salles et puis surtout, dans quelles conditions.
Oui, surtout,
Alors, quel film montrer, Mathieu, c'est vrai que beaucoup de distributeurs ont décalé leur sortie.
Alors oui, sur ce point, le meilleur espoir, pas féminin, vous me suivez, reste permis.
Joli.
C'est le calendrier de sortie des films de cet été, quand vous le regardez, reste bien fourni. Vous avez déjà parmi les Français, Kaamelott, vous savez, d'Alexandre Astier.
Qui est tellement attendu.
Toujours, effectivement. Et oui, à cette date datée au 29 juillet, je vous rappelle quand même que le teaser, lorsqu'il est sorti, il a été vu plus de 8 millions de fois en 48 heures. C'est dire l'attente qu'il y a, notamment chez les plus jeunes. Et puis, vous avez aussi toujours de programmer le nouveau film de Christopher Nolan pour les cinéphiles. Vous avez aussi Mulan et Bob l'éponge pour les enfants. Wonder Woman pour les femmes de super-héros, plutôt héroïnes en l'occurrence. Donc, si les salles rouvrent et que les gens ont envie d'y aller, l'offre en principe sera là. D'autant que devrait ressortir aussi De Gaulle, vous savez, porté par Lambert Wilson, ou La Bonne Épouse avec Juliette Binoche, qui marchait très bien, qui était sorti juste avant la fermeture des salles, donc qui marchait très bien. Mais leur diffusion s'est arrêtée en raison du confinement et eux, en principe, ils ressortiront de nouveau en salle. Donc l'offre, normalement, sera là.
Est-ce que les gens auront envie de retourner dans les salles, dans des espaces clos, proches les uns des autres?
Bah c'est sûr que c'est toute la question. Je vais vous dire un impératif, The Mask.
Ah bah
dans tous les cas, dans les halls de cinéma.
Ah oui.
Et Mathieu, je vais vous dire, heureusement que la caisse de pinard est arrivée. Il fallait vous relancer humoristiquement. Et je pense que ça va faire beaucoup de bien. Ouvrez-en déjà, d'ores et déjà, une petite bouteille peut-être, pour nous.
Masque obligatoire, gel hydroalcoolique pour tout le monde, ça, c'est dans les halls de cinéma. Mais une fois dans la salle, heureusement, les règles seront un peu plus souples. Déjà, vous avez quand même beaucoup de salles en France qui ont été rénovées, vous savez, ces dernières années. Donc la Fédération Nationale du Cinéma, elle dit, on a élargi les allées pour que ce soit un peu plus confortable, parce qu'on se plaignait beaucoup d'avoir
les genoux dans le menton quand on allait au cinéma. Donc le mètre de distance avec le spectateur de devant et de derrière, en principe, celui-là, il sera respecté dans beaucoup de salles. Ensuite, vous laissez tout simplement un siège de libre à votre droite, à votre gauche, et normalement, la distanciation sociale est respectée. Les fédérations de cinéma qui précisent aussi que, évidemment, si vous venez en famille et que donc vous êtes avec des proches, là, vous pourrez rester assis ensemble. Je précise donc que dans la salle, c'est bas les masques, Richard Brook. Vous serez pas obligé de porter votre protection. Et puis, les cinémas aussi s'engagent à renouveler intégralement l'air de la salle entre chaque séance grâce à leur climatisation. Faut compter, disent-ils, entre 15 à 20 minutes. Donc, les séances devraient être un petit peu plus espacées, mais c'est réalisable. Et aussi, il faut préciser qu'en France, il n'y a pas tant de séances que ça de cinéma qui sont complètes. On a toujours les images des sorties de Star Wars, etc. Mais dans les faits, la grande majorité des séances sont pas complètes. Donc, c'est pas très compliqué d'organiser un siège sur deux de libre. Et puis, vous savez, il y a aussi maintenant les cinémas, vous pouvez réserver vos places sur les sites, sur les applis, etc. Ben là, suffira que les exploitants de salles programment l'appli pour qu'un siège sur deux ne soit pas réservable. Donc, c'est faisable.
Et Mathieu, quid des tournages de films ?
Alors, c'est vrai que c'est là que ça va se compliquer parce que beaucoup ont déjà dû être reportés. Vous savez que les acteurs stars sont souvent bookés des années à l'avance. Donc, si vous reportez, il y a un moment où ça va boucher. Et puis, idem pour les techniciens, dont tout le monde ne pourra pas reprendre les tournages en même temps. Sur ce point, c'est le casse-tête, hein, pas chinois, mais ça ne fait que commencer. Et puis, vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on lançait l'idée dans cette émission de relancer les drive-in. Vous savez, les cinémas en plein air, dans votre voiture. Eh bien, on a été entendu, selon Ouest France, il y a un cinéma de Caen qui s'appelle Le Luxe, qui est un cinéma d'arrêt d'essai, qui met en place un projet de 4 séances par semaine de cinéma drive-in. Ça pourrait commencer dès le 11 mai. Donc, l'espoir renaît. L'apocalypse n'est pas now.
Ok.
L'apocalypse n'est pas now. C'était donc la chute de la chronique de Mathieu Charicky.
Finissez la bouteille de vin. Voilà,
heureusement,
la bouteille.
A reçu, plus qu'une bouteille, il a reçu, je peux vous le dire maintenant, 4 caisses de bon pinard. Merci Mathieu Charicky. Votre chronique aura-t-elle plu à nos auditeurs? À l'instant, en tout cas, ce SMS. Congratulations. Very good job, Matthew. Ciné Jack DeMai. À suivre, vu que le cinéma de demain risque bien de ressembler à ça.
Pour des raisons de budget, la scène suivante sera entièrement bruitée à la bouche.
Oh mais écoute, plaie d'argent n'est pas mortel, enfin. Oui. Mais ce boulot, c'est la chance de ma vie. J'y crois à mort. Plique, ploc, plique, ploc, plique, ploc.
Oh putain, tu fais super bien le chat.
Merci.
Vu la gueule du cinéma de demain, profitons plutôt du cinéma d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on regarde à la télé et sur les écrans ce soir? Les conseils d'Eva Rocari.
Europe 1, l'équipé sauvage. 16h, 18h. L'équipé sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Mathieu Noël.
Je m'adresse à toi, la femme moderne, dynamique et positive qui m'écoute. Ce soir, pour mettre du piment dans ta vie de couple confinée, tu aurais aimé que ton conjoint te surprenne par un acte romantique. Par exemple, qu'il se lave, puis qu'il te prépare un petit dîner aux chandelles, puis qu'il te fasse l'amour, fougueusement. Seulement voilà, il risque plutôt de débouler dans le salon en pyjama en te disant
« Je suis fatigué avant même de commencer, c'est pas possible. »
Une fois de plus, oui, il te faudra te rabattre sur celle qui, elle, n'est jamais en panne, la télévision. Eva Rock, qu'est-ce qu'on regarde ce soir?
Ouais, les écrans même, plutôt que la télévision. Enfin non, s'il a quand même la télévision.
Je suis né dans les années 80.
Ouais, et vous restez en pyjama aussi. Dans ma grande générosité aujourd'hui, je vais vous offrir des rires et des programmes gratuits. Alors Mathieu, on va commencer par une séance de voyance. Justement, je vous vois sur votre canapé là, mais je vous vois aussi vers 21h, toujours sur ce canapé, il y a Miam qui ronronne à côté de vous. Vous avez une petite hésitation à prendre un dernier cookie. Ah ben non, vous avez tout mangé en fait. Et vous avez votre télécommande à la main et vous appuyez sur TF1 pour entendre une énième fois ça. Est-ce que je dois encore faire le pitch de ce film de Jean-Marie Poiret, Les Visiteurs? Mathieu.
Qu'est-ce que c'est que ce bean, Eva?
Mais oui, Les Visiteurs, c'est ce soir sur TF1 à 21h. Franchement, c'est la comédie dont on a besoin en ce moment. Une comédie hilarante à regarder en famille avec casting de luxe, Christian Clavier, Jean Reno, Valérie Lemercier, Marianne Chazelle. Donc à 21h05, surtout sur TF1, pour vous marrer encore avec Clavier et Jean Reno, évidemment.
Et si on veut regarder un écran avant 21h, pendant la nuit, voire demain matin?
Bah oui, bah alors un programme court hilarant, là encore à retrouver gratuitement sur le site de Canal+. C'est une plongée dans les coulisses des castings de cinéma, j'ai pensé à Mathieu Charrier. Trois saisons d'une série, deux et avec Pierre Niney, intitulée sobrement Casting. Alors c'est des pastilles loufoques, voire totalement barrées, qui sont construites de la même façon. Il y a un directeur de casting qu'on voit à peine, qui donne des instructions à des comédiens pour deux futurs films.
Donc voilà, on cherche trois braqueurs professionnels qui font tout un plan où ils se déguisent en nettoyeurs pour cambrioler un magasin de Piaf.
Ah, oh, de Piaf ? Trop stylé, des Piaf. Panam, panam, c'est un bon, la fille en gros,
attends, laisse-moi. C'est des Piaf, enfin, c'est des oiseaux, quoi. Ah. En plus, ça, tu me fais Christophe Maé, donc, bien sûr.
Alors, au casting des comédiens récurrents, vous allez donc retrouver Pierre Niney, mais aussi François Civil, Benjamin Laverne, Antoine Gouy. Et puis, ils s'en donnent à cœur joint, hein, vous le verrez bien. Et notamment quand il faut imaginer un film porno en comédie musicale, voilà ce que ça donne.
Je suis le jardinier,
moi le plombier,
le mécano,
et le livreur de burrito.
Les corps de métier sont réunis pour te faire ton petit cul.
Alors, casting. Moi, j'adore.
Mais non, mais c'est
franchement,
génial,
ouais, j'adore cette série. Alors, c'est aussi des invités à chaque épisode. Hein. Vous allez pouvoir voir Manu Payet, Gérard Darmon, fantastique. Éric Judor, Isabelle Nanty, Denis Podalydès, Jean-Paul Roux. Enfin, que des gens très tristes qu'on n'aime pas du tout, en plus. Régalez-vous en picorant ces pastilles. C'est à découvrir et redécouvrir sur le site de Canal+. Il y a trois saisons et ça s'appelle Casting au pluriel. Voilà.
Vous me régalez ce soir, ma chère Eva. On termine avec le mix du jour que vous avez concocté avec l'incontournable Sébastien Bordenave.
Alors oui, et au menu du grand Alessandra Sublet, candidate à Qui veut gagner des millions, présentée par Camille Combal.
J'ai bossé avec elle pendant 3 ans, je n'ai jamais rencontré du petit Alessandra Sublet.
Mais accrochez-vous. Une jeune femme qui veut manger une orange et qui finit par s'ouvrir une bière. Et puis les percussionnistes de l'Orchestre de Lyon.
Ça, c'est vous, ça.
Voilà, qui applaudissent. Oui, exactement. Les percussionnistes de l'Orchestre de Lyon qui applaudissent à 20h les soignants, mais un peu mieux que nous, écoutez.
Je suis déçue. Je vais dans la cuisine, prends une orange là. Je partais bien. Je vais pour la presser là. Tiens, ma main elle glisse, je me loupe et paf, ça ouvre une bière.
C'est qui ton ami ?
Bien, c'est Clément, mon ex-mari avec qui je partage le confinement.
Alors, vous êtes tous ensemble dans la maison pour les enfants et donc tu veux qu'on l'appelle au téléphone alors qu'il est à côté ? Crie par la fenêtre, ouvre le Vélux. Demande-lui directement par la fenêtre.
Clément !
Allô ? Ouais, Clément ?
Ouais, bonjour.
Salut Clément, c'est Camille Combal, t'es dans Qui veut gagner des millions. Je te présente Alessandra Sublet qui est dans son bureau au grenier. T'as 30 secondes maximum pour répondre, Clément.
Alors Clem, quelle huile essentielle peut-on appliquer sur les tempes pour soulager les maux de tête ? De la menthe poivrée ? Du romarin, du laurier rose ou du thym?
J'aurais dit menthe poivrée, mais je suis pas sûr.
Mais regarde sur Google.
Donc vous avez bien compris, ils sont confinés ensemble dans la même maison,
oh
mais ils passent par le téléphone pour se parler. Et en plus, ils se font engueuler, le pauvre Clément. On l'embrasse et on embrasse évidemment Alessandra Sublet.
Et oui, on les embrasse tous les deux. Elle est toujours égale à elle-même,
mais oui.
Alessandra Sublet.
Ah bah ouais.
Elle ne change pas. Merci beaucoup à Eva Rock et Sébastien Bordenave pour ce mix.
Europe 1.
La période actuelle nous le rappelle assez cruellement, les humains ont besoin de contact physique. Mais quid des animaux ? Ont-ils eux aussi un besoin irrépressible de contact physique ? Certains documentaires de National Geographic tendent à le prouver.
Tu peux pas, quand tu vois quelqu'un, tu peux pas d'entrer comme ça, lui sentir le cul. On ne sent pas le cul quand on connaît pas.
Sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage, la grande compète des journalistes d'Europe 1 continue. Des journalistes qui tentent de battre leur adversaire, ou parfois, quand leur adversaire est sexy comme Farah Kasri, de pécho leur adversaire. Justement, aujourd'hui, Mathieu Charrier s'est dit que sa pilosité quasi simiesque pourrait taper dans l'œil de Farah, qui est vétérinaire et donc amoureuse des animaux. Il vient de tenter hors antenne un petit striptease.
Ah ouais, je suis pas fan des poils, moi.
Et non, ne peut pas plaire à tout le monde. Ce qu'elle aime dans le boulot, elle ne l'aime pas forcément comme ça dans les relations humaines. Désolé Mathieu. Farah, c'est à vous. Aujourd'hui, vous nous parlez du besoin atavique de contact physique, non pas chez le charrier, mais chez l'animal.
Oui, bon, nous sommes tous des animaux, hein, ça je vous le rappelle. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'est pas la vision ou l'odorat qui sont des sens vitaux à notre survie, c'est surtout le sens du toucher. C'est le seul sens qui est commun à toutes les espèces animales, quel que soit le degré de développement. On retrouve le sens du toucher chez une simple paramycie, c'est un organisme à une seule cellule. On le retrouve aussi, bien sûr, jusqu'aux poissons, serpents, vers de terre, girafes et aux humains. C'est par le toucher que chaque être vivant l'enfant découvre ce qui l'entoure, qu'il apprend à reconnaître ce qui est dangereux pour lui, ce qui est douloureux ou au contraire ce qui est doux. Oui. Et pour les humains, quand on est petit, c'est aussi par le toucher que nous prenons conscience du monde qui nous entoure et que nous prenons conscience aussi de nous-mêmes.
Je vous arrête, Farah, parce que ça ne marche pas à tous les coups. Parce que là, par exemple, alors qu'on parle, Mathieu Charrier est en train de toucher les bouteilles de vin qu'il vient de recevoir. Il ne se rend pas compte que ça représente un danger pour lui. Il croit que c'est juste bon. Donc le toucher peut être trompeur aussi. Même si ça serait quand même la base, d'après vous, de notre construction cérébrale.
Alors, c'est pas moi en particulier. Ce sont des psychologues. Surtout dans les années 50, ils avaient commencé à faire des drôles d'expériences. Il y a un psychologue américain du nom de Harry Harlow. Il a réalisé, il faut l'avouer, d'horribles expériences sur des jeunes singes macaques rhésus pour mettre les bases de sa théorie de l'attachement. Il a mis en isolement social des bébés macaques en les séparant de leur mère dès la naissance, et aucun de ces bébés singes n'avait de contact avec un autre singe. Donc ils étaient vraiment en total isolement social. Puis au bout d'un certain temps, il présentait à ce petit singe deux substituts maternels en métal. L'un était doté d'un biberon avec du lait, l'autre seulement recouvert d'un doux tissu éponge. Et bien, même si parfois le bébé macaque tétait quelques secondes le biberon, il allait très vite se blottir contre la fausse maman en éponge pour pouvoir avoir ce doux contact, et il restait beaucoup plus longtemps.
Ah, c'est incroyable.
En fait, le réconfort était plus important pour lui que la nourriture.
Absolument. Et ce choix est un comportement qui est inné, parce qu'à partir du contact, tous les bébés issus d'une espèce sociale calment leur peur de l'inconnu. Et c'est en calmant leur peur de l'inconnu qu'ils vont pouvoir aller explorer leur environnement. S'ils restent dans leur peur, il n'y a pas d'apprentissage et donc pas de développement cérébral suffisant. C'est comme si il fallait ce contact, ce lien de contact du toucher pour qu'on puisse nous-mêmes nous développer. Mais aussi, c'est le toucher qui nous aide à maintenir notre santé psychique.
C'est incroyable. J'avais pas mesuré l'importance du toucher à ce point-là, en fait.
Et le monsieur dont vous nous parlez, le scientifique, là, il avait le droit de mener tous ces expériences. C'est affreux quand même.
Oui, c'était les années 50-58 exactement. C'était des expériences où il y avait des journalistes qui venaient. On peut retrouver d'ailleurs la vidéo sur Internet en tapant théorie de l'attachement à Harry Harlow. Et en fait, il y a des psychologues qui étaient sur plutôt l'espèce humaine qui ont appliqué ce genre d'expérience aussi sur des bébés humains. Pas
mais
aussi
non.
cruellement, mais quand même. Et il y a eu justement quand un bébé n'est pas caressé, câliné, à qui on ne sourit pas, eh bien, vous allez voir qu'il ne se développe pas, il est tout le temps dans la peur et il a des retards de développement. Donc le toucher est à la base de notre construction comme espèce animale et c'est vraiment commun à toutes les espèces sociales.
On a tous besoin d'amour, c'est la leçon de cette belle chronique. Merci Farah Kessri. Mathieu, une réaction ?
Dites donc.
Merci Mathieu.
Europe 1.
L'éclectisme, vous le savez, est l'ADN de l'Équipée Sauvage. Un éclectisme qui s'applique aussi au choix des invités. Tantôt nous recevions des humoristes pour vous détendre, tantôt des écrivains pour vous cultiver, parfois aussi des stars engagées afin de vous sensibiliser à une cause importante comme le dépistage du cancer colorectal.
Pour un garçon, c'est pas facile d'aller se mettre un petit doigt dans les fesses quand même.
C'est bien dit.
Un point commun de tous ces invités, savoir trouver les mots justes pour nous toucher. Aujourd'hui, on vous propose d'écouter et de réécouter notre interview de François-Xavier Demaison. À tout de suite.
Europe 1, 16h-18h, L'Équipée Sauvage.
45e jour de confinement et chaque après-midi désormais avec Eva, vers 6h-20, on ouvre l'album Souvenir. On se replonge dans ce monde d'avant, quand on pouvait encore accueillir les invités en studio.
C'était chouette, c'était bien.
Certains, conquis par la qualité de l'émission, sont même venus plusieurs fois. C'est le cas de François-Xavier Demaison, grand admirateur de mon professionnalisme.
Vous avez déjà 3 enfants, si je ne m'abuse, c'est ça ?
Non, j'en ai qu'une seule.
François-Xavier Demaison, qui est venu 2 fois, enfin je suis pas très sûr sur les chiffres, 1 fois l'émission a été diffusée, l'autre fois Chirac est mort, et donc l'émission aussi. C'est la 2e qu'on vous propose de découvrir maintenant, c'était le 7 février dernier. C'est donc à la fois une joie et une inquiétude que de recevoir aujourd'hui le comédien François-Xavier Demaison. On va évidemment profiter de ce moment ensemble.
Une inquiétude pour moi aussi,
parce que... bien sûr.
Je vous avoue que...
On va garder un œil sur le fil AFP, effectivement, vous avez raison. On le disait la dernière fois que vous êtes venu, pas de bol, Jacques Chirac nous quittait 5 minutes après. Enregistrement à la poubelle. Or, Incroyable coïncidence, vous venez aujourd'hui nous parler d'une pièce que vous jouerez à partir du 25 février au Théâtre Antoine, dans laquelle vous incarnez justement un président fraîchement élu. Ce dernier doit prononcer son discours d'investiture, mais dès qu'il commence à prononcer les premiers mots, que se passe-t-il pour lui ?
Écoutez, c'est impossible pour lui. Il est pris d'une espèce de démangeaison nasale, d'une espèce de picotement du nez terrible. Il est paralysé, il a les larmes aux yeux, il fait des grimaces terribles. Donc c'est impossible pour lui, il est ridicule. Et ça devient une farce extraordinaire, écrite donc par nos amis, les auteurs du prénom, où un psy devient son dernier recours à 4 heures de son discours d'investiture. Et c'est donc tout ce rapport de force entre le psy et ce président qui est très très sceptique vis-à-vis de toutes les méthodes de psychanalyse. Donc c'est vraiment c'est très très drôle. Et c'est très intelligent, c'est un vrai affrontement entre deux personnes que tout oppose, et bien sûr, voilà.
Et c'est en temps réel, hein, si j'ai bien
compris. Oui,
on a eu le texte. C'est en temps réel. C'est 1h30, c'est une séance.
1h30, une séance de psy en accéléré, hein, puisque ceux qui ont fait de la psychanalyse savent que c'est pas qu'une séance. Mm. Mais là, c'est, je sais pas si vous vous souvenez de ce film, Le discours d'un roi.
Mais oui, on y pense forcément.
Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça où vous avez cet homme qui est installé dans le pouvoir. Enfin là, c'est assez récent, mais qui a la légitimité suprême. Et puisque c'est le roi ou le président. Et en face, il y a ce psy qui va prendre un ascendant sur lui qui est tout à fait passionnant.
Et vous êtes sceptique au début. Hein.
Et il n'y croit pas. Il n'y croit pas, il ne comprend pas que le type est là avec son petit carnet. C'est limite.
Il préférait avoir un petit médicament pour que ça.
Oui, bah oui, pour lui, c'est.
Une petite pilule et ça
c'est pragmatique. Donc pour lui, une pilule, et puis on n'en parle plus. Et c'est plus compliqué que ça. Et le psy va aller faire un véritable voyage dans le parcours de ce président, dans son enfance, etc. Et c'est assez jouissif. Et surtout, avec Berléand, c'est un bonheur.
Vous avez des tics dans la vie, comme ça? Non, aucun, visiblement. Tout va bien pour vous.
J'ai 3 micros.
Une question qu'on se pose, puisqu'on a reçu François Berléand l'autre jour, et qu'on voit un peu vos personnalités à tous les deux. Comment vous réussissez à rester sérieux durant les répétitions, durant le travail? Parce que vous êtes tous les deux de grands bons vivants, grands amateurs de vin. Est-ce que la tentation d'aller s'en ouvrir une petite à l'issue de la répétition est plus forte que l'envie de répéter?
François m'a regardé quand, à la première répétition, il m'a dit « On boira qu'une fois par semaine, hein, je te signale. »
Et ça marche?
Ça va, on se maintient.
Comment se passent les répétitions, mon cher François, actuellement? Est-ce qu'il vous arrive de vous engueuler? Parce que dans tous les métiers, il y a des moments où on s'engueule. Est-ce que dans une pièce de théâtre,
non,
quand on est deux à porter un texte...
On s'entend très très bien, mais c'est vrai que parfois on défend notre opinion sur un aspect, une réplique, un parti pris de mise en scène. Voilà.
Ça, c'est quelque chose que peut-être tout le monde ne sait pas. C'est-à-dire qu'en plus, quand on a des grands auteurs comme Alexandre de la Patellière et Mathieu Delaporte, on imagine que le texte est quelque chose de sacré qui ne change pas à la virgule près. C'est faux. Quand on a deux grands comédiens, on s'approprie un peu le texte, on fait des modifications.
Plus ou moins, il y a des choses qui apparaissent évidentes au regard du travail qu'on a fait aussi sur d'autres scènes. Donc, mais franchement, c'est très bien écrit. Ce qu'on fait Alexandre et Mathieu, on y a assez peu touché. Hein.
Est-ce que les hommes qui font beaucoup rire les femmes ont vraiment un pouvoir de séduction supérieur aux autres?
Ou au contraire?
Oui, mais est-ce que
à moitié dans son lit, moi j'ai souvent eu l'autre moitié.
Voilà.
On ne va pas se mentir.
C'est pareil pour les filles. Les filles qui font rire les garçons,
ça dépend des âges.
Sortie de son lit.
Ça dépend des âges. Je pense qu'à l'adolescence, les filles, elles préféraient des rebelles qui avaient un scooter et un perfecto.
Et une guitare.
Qui jouaient de la guitare.
Voilà. Ouais. Aujourd'hui, je pense que oui, ça fait partie de la séduction, le rire. C'est surtout qu'on entre en contact avec peut-être l'intelligence ou les références de l'autre. Donc, c'est des choses qu'on partage, le rire. Donc, je pense que c'est là que la relation peut aussi se créer.
Vous avez donné un peu d'espoir à Eva et je vous remercie.
J'ai tellement d'humour.
On est tout près.
De l'humour en séduction. On a un livre lourd aux éditions Plon.
Europe 1. À suivre, ce n'est pas parce que votre enfant ne pourra peut-être pas reprendre l'école le 11 mai comme prévu qu'il ne faut pas se soucier de son orientation. L'orientation post-bac, c'est primordial. Il ne faut pas se tromper d'école, HEC, Sciences Po, l'EDEC. Vous hésitez encore? Écoutez bien les conseils d'Olivier Pouls.
C'est délicieux, une vraie purée maison. Alors, il y a plusieurs écoles de purée.
Quelle école de purée offrira les meilleurs débouchés pour vos enfants? Olivier Pouls dresse un bilan comparatif en partenariat avec le magazine L'Étudiant et accessoirement, il vous livrera une recette facile et goûteuse pour ce soir. Juste après Nora Jones, I'm Alive sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
C'est clairement le côté positif du confinement. La créativité des artistes est maximale. Surtout sur la scène rap bourguignonne. où les fans attendent avec impatience, dans quelques jours semble-t-il, la sortie d'une bombe, une bebon. La première collaboration 50 Cent Olivier Pouls avec des featuring de Mathieu Charrier et Shuriken.
Yo les amis, est-ce que vous êtes là?
Entre deux tubes mondiaux, il trouve encore le temps de préparer une béchamel. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour mes amis. Vous savez, il y a eu comme ça des orchestres philharmoniques qui se sont réunis virtuellement pour jouer ensemble. Et là, on a fait pareil, mais version rap.
Exactement.
Oui, j'ai vu ça ouais, avec votre bon ami 50 Cent. Alors justement, cette semaine, vous nous faites découvrir, alors, je ne sais pas, ce mot justement que j'ai utilisé n'avait vraiment,
non, ça
n'était vraiment
pas
à bon escient, puisque ça n'a absolument rien à voir. On rappelle Olivier Pouls qu'avant d'être un rappeur, vous êtes un cuistot, un cordon bleu, et chaque jour, cette semaine, vous nous proposez une recette facile, une recette qui nous rappelle les charmes de notre enfance.
Exactement, et c'est une demande spéciale de La Science, qui sur Twitter m'a demandé le gâteau de semoule. Alors lui... évoque le gâteau de semoule de sa maman, qui paraît-il était une piètre cuisinière et il avait un goût de brûlé. Alors on va essayer de faire mieux quand même avec un gâteau de semoule caramel au beurre salé. Ça paraît un peu pompeux comme ça, mais c'est, croyez-moi, simplissime. Ben, prenez note, mon cher Mathieu, ma chère Eva.
Je note, alors allez-y.
Alors, allez-y.
Moi je fais de manière séparée le gâteau et le caramel. On commence par le gâteau. 1 litre de lait que vous allez porter à ébullition avec 100 grammes de sucre. Une petite pincée de sel, je rajoute une petite pincée de poudre de vanille, et dès que ça bout, vous rajoutez 125 g de semoule fine. Vous allez laisser gonfler la semoule, vous allez faire cuire cette préparation pendant une petite dizaine de minutes en mélangeant régulièrement. Vous sortez la préparation du feu, vous laissez légèrement refroidir et vous incorporez 2 œufs. Vous placez tout ça dans un moule, alors soit un moule en silicone, sinon un moule beurré, direction le four à chaleur
tournante.
Merci de suivre, 180 degrés pendant 20 ou 25 minutes. Et pendant que ça cuit, on va faire le caramel au beurre salé. Ça, c'est une vraie petite magie. Ça fait un peu peur à faire comme ça, mais croyez-moi, c'est hyper simple. Et puis surtout, vous allez pouvoir en garder peut-être le matin pour mettre sur votre tartine ou pour accompagner un riz au lait. Alors là aussi, suivez-moi bien. 100 g de sucre que vous faites fondre dans une casserole. Vous allez voir, il va se liquéfier et prendre une couleur légèrement brune. On va rajouter délicatement, parce qu'attention aux éclaboussures, 10 centilitres de crème liquide et ensuite 30 g de beurre demi-sel. Et on laisse cuire ça en remuant jusqu'à obtention d'une jolie couleur caramélisée. Attention à ne pas le faire brûler. Et ensuite, on le réserve et on le fait refroidir sur le côté. Voilà, il n'y a plus qu'à démouler votre gâteau et venir le napper de ce délicieux caramel au beurre salé. J'en ai déjà les papilles tout excitées, figurez-vous.
Eh bien, écoutez, nous visualisons ces papilles excitées, ça nous excite en retour. Olivier Pouls, on retient la difficulté technique de la recette. Attention au moment où le caramel au beurre salé peut vous éclabousser. Effectivement, ça peut constituer un jeu érotique pour Eva Rock, mais pour la plupart des gens, ça peut être un désagrément.
Donc, attention
à cette partie de la recette. Merci beaucoup, Olivier Pouls, qu'on retrouvera samedi dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.
Europe 1.
Ce n'est pas le moment de se relâcher, c'est même le moment où tout se joue pour nos journalistes en compétition, comme disait Aimé Jacquet à la mi-temps de France-Croatie.
Aucune chance ! Mais aucune chance, les gars ! Alors, où on réagit ? Et on y va ! Ou vous laissez tomber ?
Qui sera élu chroniqueur du jour ? La finale arrive à grands pas.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. Mathieu Noël.
Moment que vous attendez fébrilement chaque après-midi, certains d'entre vous n'y tiennent plus, le suspense est trop étouffant, mais voilà, comme disait le meilleur d'entre nous, Axel de Tarlet.
Avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est l'heure. C'est pas l'heure, l'heure, c'est l'heure, comme on dit.
Oui, voilà.
Bref, tout le monde est très fatigué. Et c'est l'heure, oui, c'est l'heure du quitte ou double. Chaque journaliste a 10 secondes pour plaider son dossier. Mathieu Charrier, pourquoi devrions-nous voter pour vous ce soir?
Écoutez, participer à cette émission, c'est un peu le salaire de la peur. Aller jusqu'à la fin de la saison représente un voyage au bout de l'enfer. Mais je continuerai d'écrire ces chroniques pour exister, même si plus dure sera la chute. Je compte sur vous pour m'ouvrir la porte du paradis.
Oh la classe.
Mathieu, franchement, je salue en tout cas un bel effort de votre part, un bel effort d'écriture, et ce n'est pas toujours le cas, donc bravo, je vous félicite. Farah Kessri, pourquoi voter pour vous aujourd'hui?
Oula, parce que tout simplement, je vous ai donné un argument philosophique pour pouvoir conclure ce soir, mais attention Mathieu, il faut vraiment que vous alliez prendre votre douche tout de suite, hein, parce que sinon c'est pas facile.
Ah oui, ça, je vous comprends, mais à vous, vous venez de déventer, hein, si je puis dire,
non, je crois pas.
Une réalité qui
Mathieu,
est effectivement...
Que je donne déjà rendez-vous.
Qu'on le sent à travers
je
le
donne
poste,
déjà non. rendez-vous aux auditeurs lundi pour qu'on découvre les offs de l'émission du jour. Parce que ça va vraiment
être
gratiné.
Ils sont particulièrement gratinés, effectivement, puisque je ne me suis pas lavé depuis deux jours. Jean-Luc Bougeon, pourquoi voter pour vous ce soir?
Moi, tout simplement parce que c'est ma première. Donc, je veux pouvoir dire coup d'essai, coup de maître, en toute modestie.
Oui, c'est vrai.
Il est mignon, le Bougeon. Et en plus, ça rime. Anne Le Gall, c'est loin d'être votre première. Vous avez quelques heures de vol dans cette émission, si je peux me permettre. Anne, en toute élégance. Anne, pourquoi voter pour vous ce soir?
Oui, j'ai quelques heures de vol, mais j'espère continuer à planer bien haut. Alors, oui, je vous ai raconté que des recherches sont en cours pour désinfecter les masques médicaux au lieu de les jeter. C'est vrai que ça nous rendrait vraiment, vraiment service en ce moment. Et moi, ça me rendrait vraiment service que vous votiez pour moi aussi.
Eh bien, Anne, comme vous avez particulièrement bien rebondi suite à mon tacle vicieux, je vous accorde mon point. En plus, la chronique était intéressante, pas de problème là-dessus. Donc, un point pour
Merci.
Anne Le Gall. Eva, pour qui votez-vous ce soir?
Ah, je vais voter pour Farah Kessri. J'adore cette histoire du toucher.
Sans explication, vous n'argumentez
pas. Le toucher. J'ai pas besoin d'argumenter. Le toucher. Voilà.
C'est vrai, tout est dit. Ça fait 8 ans que vous êtes célibataire. Romain Causer, notre réalisateur, vote lui aussi. Qui avez-vous choisi aujourd'hui, Romain?
Mathieu, aujourd'hui, je vais voter pour Jean-Luc Bougeon.
Allez, voilà.
Jean-Luc Bougeon, nous avons une égalité parfaite. Ouais. C'est donc le public qui va vous départager, les amis.
Et bien, alors là, mes aïeux, dans un mouchoir de poche, c'est Mathieu Charrier qui remporte.
C'était la 164e journée de l'équipe sauvage sur le fil. Mathieu Charrier s'impose. Je remercie mes confinés du jour, Eva Rock, Anne Le Gall, Farah Kessri, Jean-Luc Bougeon, Mathieu Charrier et Snoop Doggy Pulse, Romain Causer et Rémi Duprat en régie, et bien sûr mes télétravailleurs de l'ombre, Philippe Amardet, Claire Dutronc, Oriana Lévy et Sébastien Bordenave. L'équipe sauvage revient demain 16h. Tout de suite, restez sur Europe 1.